Chapitre 27. Buffet froid. « 8h49, commissariat de Rouen, 9 rue Brizou de Barneville. L'inspectrice Colette Cadineau sortit de la salle d'interrogatoire. Le commissaire Paturel l'attendait devant la porte, deux gobelets de café à la main. Il en tendit un à l'inspectrice. « Alors ?» demanda le commissaire. « Il ne parlera pas, » répondit Cadineau. « Il reste bloqué sur sa version. » Ils demeurèrent quelques instants silencieux. Colette Cadineau vida son café. « Tu en penses quoi, toi ?» continua l'inspectrice. « Tu l'as interrogé aussi une bonne partie de la nuit. » Paturel se frotta le crâne, hésitant. « J'en sais rien, Colette. D'un certain côté, Daniel Lovici a l'air plutôt sincère, mais sa ligne de défense ne tient pas debout. Le poignard tombé du ciel, l'absence d'alibi, aucun souvenir de quoi que ce soit. » Colette broya dans sa main le gobelet vide et répondit. Il peut être sincère quand il dit ne se souvenir de rien et être tout de même le meurtrier. Ce type est ravagé par la coke, Gustave. Son cerveau fonctionne en alternatif. Il n'est pas conscient de ses actes. Si ça se trouve, demain, il ne se souviendra plus de l'agression de cette nuit. Va pas te torturer, Gustave. Il avait l'arme du crime entre les mains. Il n'a aucun alibi. Il a même un mobile, la coke. Un peu court tout de même, l'alibi, Colette. Tu ne trouves pas ? On a la preuve qu'il n'y a jamais eu de drogue sur le côté Moc, ni dealer, ni rien. On le sait maintenant. Lovici, lui, ne pouvait pas le savoir. Il le croyait. Il le croit toujours. Tu l'as entendu? Ce type est taré. Il a très bien pu faire le coup. C'est un miracle qu'on ait réussi à le coincer aussi rapidement. Ça va permettre de calmer tout le monde jusqu'à la parade de la Seine le 14 juillet. Ensuite, il sera toujours temps d'affiner les détails, de se pencher sur les zones d'ombre. Tout finira bien par s'expliquer avec le temps. Tu as sans doute raison, Colette. Repose-toi un peu. Le commissaire Paturel laissa l'inspectrice et avança dans le couloir pour se rendre à son secrétariat. Il avait volontairement coupé son téléphone portable et demandé à Sarah de filtrer les appels. Il voulait un peu de calme pour faire le point. Depuis ce matin, tout le monde l'avait déjà félicité. Le préfet lui-même l'avait appelé à 6h du matin. Tout le monde semblait soulagé. Il allait faire une conférence de presse très rassurante, sans insister sur les détails encore obscurs, et tout le monde serait content. Après tout, maintenant, que restait-il comme inconnu? Pas grand-chose, finalement. Les tatouages, les SMS en espagnol, la fille blonde qu'on n'avait pas identifiée, les messages macabres, tout ceci n'avait peut-être aucune importance et aucun rapport avec l'enquête. Il ne restait véritablement que deux points noirs. La marque au fer rouge, tout d'abord. Après tout, Daniel Lovici était braque, et il fallait être complètement braque pour pratiquer ce genre de torture, pour marquer un type mort au fer rouge. Daniel Lovici pouvait autant l'avoir fait qu'un autre. Restait la question du corps de Mungaray, l'absence de putréfaction pendant 3 heures. Cela, c'est clair, il valait mieux éviter d'en parler à la presse. Mais qu'est-ce que ce truc de fou changeait à la culpabilité potentielle de Daniel Lovici? Rien, en fait. Au bout du couloir, il vit s'approcher la maigre silhouette d'Ovid Stepanou. À coup sûr, en voilà un qui allait douter de la version officielle et qui allait lui faire valser ses belles certitudes. « Gustave, je te cherchais !» Le commissaire Paturel se prépara au pire. « J'ai continué sur ma théorie d'hier soir. Tu sais, les pirates. » Il n'arrêtait donc jamais. Le commissaire tenta de le raisonner. « Excuse-moi, Ovid, on n'a pas dormi de la nuit, on est tous à cran. On a trouvé un coupable et c'est du sur-mesure. Alors ne viens pas me dire que tu es toujours sur ta théorie de pirate et de chasse-partie. » Ovid, visiblement vexé, montra au commissaire son front. « Eh oh, Gustave, y a pas écrit la presse, là. Je connais mon métier. Je ne viens pas te parler de Lovici, je viens de parler du reste. Les tatouages, la marque au fer rouge. Excuse-moi de jouer les troubles faites, mais ne me dis pas que c'est Lovici qui a fait ça. » Gustave soupira. « Vas-y. J'ai enquêté sur Ramphastos, de son vrai nom Pierre Poulizac. Ce type n'a pas une histoire banale. Marin au long cours de 13 à 40 ans, il devient monsieur contes et légendes de la marine dans les années 1980. la coqueluche des médias, avant que l'alcool ne prenne le dessus et qu'il se fasse virer de partout. Mais je viens juste d'avoir les documents que j'ai demandés cette nuit au ministère. Avant de sombrer dans l'alcool, Pierre Poulizac était un type très surveillé par la sécurité intérieure, surtout dans ces années-là. Il a même fait partie de la liste des écoutes de l'Élysée. Ce type a été fiché jusqu'en 1998 comme anarchiste. Il fiche les anarchistes à la DST ? Pour eux, je suppose qu'un anarchiste qui tourne mal peut vite devenir un terroriste. Selon le dossier, Poulizac a même fréquenté de façon assez proche Hakim Bey. Hakim Bey ? L'anarchiste qui a inventé les zones d'autonomie temporaire ? Il paraît qu'il redevient à la mode dans les campus depuis 2006. Oui, mais Poulizac l'aurait surtout fréquenté dans les années 1970, lors de son séjour de 7 ans en Iran. Pour la doctrine anarchiste moderne, les fameuses zones d'autonomie temporaire sont très explicitement les déclinaisons modernes des utopies pirates. De là à penser que Pierre Poulizac est l'un des inspirateurs d'Hakim Bey, il n'y a qu'un pas. Tu comprends alors pourquoi Poulizac, dit Ram Fastos, était fiché par la DST. Les TAZ sont les cauchemars des États modernes, des rêves partis aux manifs contre l'OMC. Le commissaire avait pour principe de toujours écouter Stepanou, par prudence, même s'il ne voyait pas où l'inspecteur voulait en venir. « Ok, Ovid, tu as raison. Ram Fastos, Poulizac, si tu préfères, a fréquenté les milieux anarchistes. C'est son côté pirate. Mais quel rapport tu vois avec notre affaire ? On le tient, le coupable. » « Ok, on a un coupable si tu veux, mais on ne comprend toujours rien à cette affaire. » Pour ma part, je reste sur mon idée que ces tatouages représentent une chasse-partie de marins qui se retrouvent autour d'idéaux pirates anarchistes. Daniel Lovici peut très bien avoir été payé pour tuer Mungaray, pour tuer Ram Fastos aussi. Il peut aussi être le grain de sable qui vient perturber une organisation avec laquelle il n'a rien à voir. Il tue sans le savoir, en étonnement, que le membre d'une chasse-partie anarchiste. Tu veux en venir où, Ovid ? J'ai la très nette impression qu'on se fait endormir avec ce coupable qui nous tombe du ciel. Il y avait presque encore le papier cadeau autour, tu ne trouves pas ? Alors logiquement, je me demande pourquoi on cherche à nous endormir. Au risque de paraître rabat-joie, j'ai la très désagréable impression que pendant qu'on se concentre sur Lovici, un sale coup, un très sale coup, se prépare dans notre dos. Le commissaire se dit que la journée avait trop bien commencé et que Stepanou était en train de la lui pourrir. Désolé, Ovid, j'ai tendance à suivre tes intuitions généralement, mais là, tu me comprendras, je préfère aller annoncer au préfet que je tiens un coupable plutôt que de lui faire ton coup du trouble fait et l'avertir qu'un complot terroriste se prépare sur l'armada. L'inspecteur Stepanou allait sans doute chercher à contre-argumenter lorsque le médecin légiste, Jean-François Lanchec, déboucha à l'autre bout du couloir. Il semblait plus excité que jamais. « Commissaire, regardez !» Le légiste tenait dans ses mains une série de feuilles bardées de formules complexes. « La police scientifique nationale vient de me les envoyer. Je les attendais depuis hier. C'est bien ce que je pensais, mais je n'ai pas voulu vous en parler avant. Quoi ?» explosa le commissaire en lui arrachant les feuilles des mains. Il jeta un coup d'œil, mais ne comprit rien aux formules. Lanchec répondit à grand renfort de moulinets de bras. Le cadavre de Mungaray. J'ai la solution de l'énigme. L'absence de symptômes de dégénérescence. C'était tout simple, finalement. Il suffisait d'y penser. Ils me l'ont confirmé à la police scientifique nationale. Ils ont déjà eu le cas. Commissaire, écoutez ça, vous n'allez pas le croire. Le cadavre a été congelé. Moins de 5 minutes après sa mort, le corps de Mungaray a été mis dans une chambre froide à un congélateur ou quelque chose du genre. On ne l'a ressorti que 3 heures plus tard. Devant le visage atterré du commissaire, Lanchec lui reprit ses notes des mains. « Je vous fais un rapport, mais je voulais vous prévenir avant. » Il disparut aussi vite qu'il était arrivé. Le coup de poing que le commissaire donna dans la cloison du couloir du commissariat fit trembler la mince paroi. Une pluie de morceaux de peinture écaillée tomba sur leurs habits. « Mungaray a passé 3 heures dans un congélo. Qu'est-ce que tu dis de ça, Ovid ? Un congélo, maintenant ! Pourquoi avoir l'idée de planquer un cadavre dans un congélo ?
Si je peux me permettre, Gustave, la question c'est plutôt comment ?
comment Daniel Lovici, s'il est le coupable, a-t-il pu se procurer un congélateur? Ça ne tient pas debout. Il dort dans un carton, il mange à l'armée du salut ou se sert dans les poubelles. Des congélateurs, suggéra Paturel, il y en a sur tous les stands alimentaires de l'armada, non? Tous les restaurants, tous les endroits où l'on sert à manger. C'est juste, Gustave, mais ils sont tous cadenassés. La plupart ont des rideaux de fer, peut-être même des alarmes. C'est clair, Daniel Lovici n'aurait jamais pu trouver un congélateur sans complicité. Putain, tout ça doit bien avoir un sens. Pourquoi avoir l'idée de cacher un cadavre dans un congélateur? Le commissaire Paturel arpenta nerveusement le couloir. Il regarda plusieurs fois les murs, mais se contrôla pour ne pas donner de nouveaux coups de poing. Au bout de quelques minutes, il revint vers l'inspecteur Stepanou. Écoute, Ovid, je ne vois qu'une explication. On a retrouvé le cadavre de Mungarai sur les quais de Rouen, en face du côté Moque, mais également juste à côté de ce bateau promenade, le Surcouf, le fameux bateau qui semblait beaucoup intéresser notre homme d'affaires, Nicolas Neufville. Tu es d'accord avec moi? Ces bateaux promenades sont en fait des restaurants flottants. Ils sont tous équipés de cuisine. On y sert du matin au soir des repas à des centaines de convives tout en les promenant sur la Seine. Les congélateurs qui se situent le plus près de l'endroit où l'on a retrouvé le cadavre du Mexicain sont ceux de ce bateau promenade. Ce bateau devant lequel traînait, à l'heure du crime, Nicolas Neufville. Ovid, tu vas foncer chez le juge demander une commission rogatoire pour perquisitionner le Surcouf, et en particulier son arrière-cuisine. Une fois sur place, tu me passes au peigne fin tout ce qui ressemble à une chambre froide. Je mets également Colette sur le coup pour qu'elle essaie d'en savoir davantage sur le marché, sans doute très lucratif, des bateaux promenades de l'armada. Tu abandonnes la piste Daniel Lovici, alors? Le commissaire Paturel semblait avoir soudain repris toutes ses forces. Tu penses qu'on nous prend pour des cons, Ovid, avec ce coupable livré dans une pochette surprise, c'est bien ça?
Je ne suis pas loin de penser comme toi. Alors on va jouer aux cons, nous aussi. On va les endormir.
Officiellement, on tient le coupable. L'affaire est pliée. On ne règle plus que quelques détails annexes. Je m'occupe de faire le tampon pour faire croire à cette version officielle. Officieusement, je veux tout le monde dans la salle grise d'ici une demi-heure. Et on va aller au bout de toutes les pistes. De l'alerte anarchiste aux magouilles de ce Nicolas Neufville.
On va tous se faire virer, murmura Stepanou.